Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, mon acolyte en blouse blanche, j'adore dire ça, est avec moi dans ce studio, même s'il n'a jamais sa blouse pendant l'émission en tout cas, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire ce mercredi, dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à notre ventre. Savez-vous que lui et nos émotions se parlent 24h sur 24 et parfois ça se complique, ballonnement, douleur abdominale ou même brûlure gastrique. Selon notre invité du jour, l'alimentation est la meilleure façon d'apaiser hypersensibilité émotionnelle et hypersensibilité gastrique. Notre invité, ce sera donc le docteur Pierre Nice. Il est endocrinologue, nutritionniste et l'auteur du livre « Le régime FODMAPS pour les hypersensibles » paru aux éditions Le Duc. Il va nous présenter le premier régime pour soigner ses émotions. Ensuite, dans notre chronique « Les mots du quotidien », le docteur Jimmy Mohamed fera un point sur la crise de panique, qu'on appelle aussi la crise d'angoisse aiguë. Comment la reconnaître et surtout, que faut-il faire si on est témoin un jour ou victime de ce type de problème? Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme qui, bien qu'amoureuse, se pose beaucoup de questions sur la durabilité de son couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer cette émission par cette question de Muriel. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy. Voilà une petite question à vous poser. J'ai un cancer de l'utérus il y a un peu plus de 2 ans. On m'a fait une hystérectomie totale. Et depuis l'opération, au-dessus de la cicatrice sur la longueur de 13 cm, j'ai une sorte d'enflure qui fait tout le long. J'aimerais savoir ce que je peux faire. Est-ce qu'à votre avis, je dois récupérer? Merci de votre tour.
Alors pour vous répondre précisément sur cette question, nous avons interrogé pour vous le docteur Marie Jourdan, elle est dermatologue à Paris.
Lorsqu'on opère le bas-ventre et notamment l'utérus, on procède souvent à une incision longitudinale, c'est-à-dire qu'elle est horizontale. La seule chose à recommander ici est bien sûr de reconsulter son chirurgien. La cicatrice, en fait, c'est très classique, est certainement adhérente et du coup le tissu sous-jacent s'accumule au-dessus et crée comme une marge d'escalier. Finalement, c'est du gras abdominal normal, mais qui vient buter contre la cicatrice qui est collée au plan profond. Dans ce cas, le chirurgien proposera peut-être de réopérer pour lever l'adhérence et en profitera pour faire une liposuction. Sinon, on optera pour des méthodes beaucoup moins invasives qui atténuent le bourrelet graisseux directement. Et je pense notamment à la cryolipolyse.
Voilà, c'était le docteur Jourdan au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question comme tous les jours. Elle est pour vous, celle-ci, c'est la question de Paul. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors je vous appelle parce que j'ai une petite question. Alors pour tout vous expliquer, j'ai une douleur au niveau des testicules. Quand je vais faire pipi, ça me fait plutôt mal. Et moi, je suis quand même assez inquiet parce que je me demande est-ce que c'est simplement passager ou est-ce que ça va continuer dans le temps. Je voudrais savoir si je dois surtout aller consulter un médecin et surtout qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille un peu mieux. Voilà, je vous remercie pour votre réponse et je vous souhaite une belle émission. Au revoir.
Bon Jimmy, alors bien sûr, comme toujours, on ne fait pas de radio-consultation, donc on ne peut que conseiller à Paul, bien sûr, sans attendre d'aller consulter un médecin. Ça, je me permets de le faire moi-même, Jimmy, hein, je pense que vous allez lui dire la même chose, mais quand même, est-ce qu'on peut peut-être l'éclairer? Une douleur au testicule comme ça, il décrit même qu'il fait un petit peu mal en urinant, ça fait penser à quoi éventuellement?
Les testicules, vous savez, on les appelle les bijoux de famille, c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils sont précieux, qu'il faut les chouchouter, et surtout que ça ne doit pas être douloureux. Il ne doit pas avoir de choses bizarres au niveau du testicule.
Parce que nous, on a parfois les seins douloureux à des périodes du cycle ou quoi, mais vous,
exactement,
les hommes, ça ne doit pas faire mal.
Exactement, d'accord, ça ne doit pas faire mal, encore moins quand vous urinez. Et donc, si jamais vous constatez des symptômes quelconques, c'est-à-dire une grosseur, une lourdeur, des signes lorsque vous allez uriner, c'est-à-dire que ça brûle, ou au contraire que vous avez des écoulements, eh bien évidemment qu'il faut consulter, puisque là, de ce qu'il décrit, ça peut être probablement une infection urinaire, ou soit une infection sexuellement transmissible, oui, puisque le même méa donne à la fois le sperme et l'urine, et donc vous pouvez avoir l'un ou l'autre.
Et donc ça peut être même enflé, c'est ce que vous dites, même juste une petite enflure, je dirais, ça aussi, ça doit amener à consulter, parce qu'on peut même avoir de la fièvre, je crois, quand on a une infection.
Exactement,
au niveau du testicule.
Exactement, on appelle ça l'orchite ou l'orchiépididymite. Vous avez au-dessus du testicule un petit canal qui s'appelle l'épididyme, c'est une forme de réservoir à spermatozoïdes. Et lorsque vous avez une infection, eh bien, vous pouvez avoir un testicule qui va enfler, qui va être douloureux, qui va être rouge, mais ça va être assez progressif et accompagné de température ou pas, et surtout des signes urinaires. Dans ces cas-là, il faut aller voir le médecin, évidemment, on vous fait une analyse d'urine, et puis si besoin, on donne un traitement antibiotique pour traiter cette infection.
Est-ce que ça pourrait pas être, on en a déjà parlé dans cette émission, une torsion testiculaire, la fameuse, vous en avez parlé déjà plusieurs fois ici. Il ne décrit pas une douleur très vive, j'ai l'impression. Donc
et puis surtout,
pas.
Il décrit une douleur en urinant. La douleur testiculaire, elle est assez brutale.
La torsion, c'est pas ça. Ouais.
C'est tout d'un coup. On comprend bien la torsion, c'est-à-dire que vous avez votre testicule qui va se tordre sur lui-même, il va faire un tour et bloquant avec lui le canal spermatique, les vaisseaux, les artères, et donc forcément une douleur intense, brutale, sans fièvre, avec un testicule qui peut être enflé à l'inverse, et puis surtout pas de signe urinaire, puisque là vraiment c'est la douleur du testicule plutôt que la douleur en urinant.
Donc effectivement ça y ressemble pas. Là clairement, donc la douleur qu'il décrit, on a dit, il faut consulter qui ça, le généraliste ou directement l'urologue, comment
le
ça
médecin
se passe
généraliste, c'est le médecin de premier recours évidemment qui peut gérer ça. Si jamais il pense que c'est une petite infection, eh bien dans ces cas-là vous aurez un traitement antibiotique, et puis parfois si vous mettez, vous lavez le zizi avec le savon, le bout du méa urinaire peut être un peu douloureux, donc ça peut faire mal au bout, mais au bout de quelques minutes, quelques heures, ça doit passer. Donc en buvant, ça peut s'améliorer. Mais là, je l'invite à consulter son médecin traitant.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va vous présenter le premier régime alimentaire pour soigner ses émotions. C'est le régime FODMAPS pour les hypersensibles. D'ailleurs, savez-vous ce que sont les FODMAPS? Non? Eh bien, c'est pas grave, car on va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Pierre Nice. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes endocrinologue nutritionniste à Paris, mais aussi l'auteur du livre « Le régime FODMAPS pour les hypersensibles » aux éditions Le Duc. Alors commençons par le début et à ceux finalement à qui ce régime s'adresse. Vous dites que ce n'est ni une anomalie, ni une maladie. Alors c'est quoi précisément, enfin, s'il y a une définition qu'on peut donner, une personne hypersensible?
Alors une personne hypersensible, si vous voulez, il n'y a pas une définition extrêmement précise. Il faut imaginer, et c'est une représentation facile à comprendre, que l'on se promène avec une espèce de bulle de protection, plus ou moins épaisse. Et normalement, la bulle à une certaine épaisseur nous permet, tout en communiquant avec l'autre, de quand même se protéger. Là, les hypersensibles, si vous voulez, ont une bulle extrêmement fine et donc perçoivent absolument tout de l'extérieur, et tout pour eux devient ou peut devenir agression. Donc ce sont des gens qui ont une sensibilité exacerbée pour tout, les odeurs, le bruit, les réflexions, etc.
Ils se reconnaissent probablement en vous écoutant, là, je suis sûr.
Mais du coup, dit comme ça, ça ressemble plutôt à une faiblesse. Vous dites que cette bulle, elle est plus fine, ça veut dire qu'on est plus fragile. Il y a souvent cette connotation, quand on parle d'hypersensibilité, qu'on associe forcément à quelque chose d'un peu plus faible.
Alors, il est vrai, effectivement, que les hypersensibles peuvent être fragilisés, entre guillemets, s'ils se laissent déborder par leurs émotions. À partir du moment, au contraire, où ils acceptent cette idée, en sachant qu'ils ne sont pas seuls. Je rappelle qu'on estime autour de 20% de la population, quand même, les hypersensibles. Donc, s'ils en font, effectivement, leur propre état, leur propre condition, ils peuvent le transformer en force. Parce que, justement, par exemple, les hypersensibles ont une telle perception de l'entourage que quand une question est posée, un problème est posé, ils vont être capables de l'analyser très au-delà de la première question.
C'est
ou
presque
du premier
un super
problème.
Pouvoir alors. Hein.
Ça peut être un super pouvoir, bien sûr. Mmh.
Comment on fait pour savoir, justement, là on écoute l'émission, comment on fait pour savoir qu'on est concerné, qu'on est hypersensible?
Alors dans le bouquin, on a fait un petit test, si vous voulez, qui est, on va dire, un repiquage de certains items, etc. Et donc qui permet de savoir si, en répondant aux questions, vous êtes ou non hypersensible. Globalement, l'hypersensible, si vous voulez, il va avoir des réactions qui vont être beaucoup plus fortes pour tout, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux réflexions de l'entourage dans le bureau.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un lien qui ne paraît pas spécialement évident, c'est le lien entre l'hypersensibilité et nos intestins, mais à quel point nos émotions peuvent jouer sur notre intestin, ou peut-être même l'inverse.
Souvenez-vous de Pavlov, n'est-ce pas ? Pavlov, effectivement, permet, si vous voulez, de montrer qu'il y a un lien direct entre le cerveau et les intestins, puisque en montrant à un chien une alimentation, le chien va saliver, tout simplement. Après, il y a eu beaucoup d'autres expériences par rapport à ça, et notamment, comme je le rapporte dans le livre, les expériences des souris à qui on change le microbiote. Alors, on parlera probablement du microbiote après. Mais les souris qui ont un microbiote et qui sont effectivement tristes, si on le transpose à des souris joyeuses, les souris joyeuses deviennent tristes. Donc il y a un lien qui est établi. Alors on peut en parler tout de suite si vous voulez, mais le lien il passe par trois niveaux si vous voulez. Le système inflammatoire, le système neuronal et le système endocrinien. Et on sait par exemple que le système endocrinien déréglé va entraîner des modifications de l'émotion. quelqu'un, par exemple, qui est sous corticoïde à forte dose, va devenir hyperactif. Un hyperthyroïdien, il est hyperactif. Mmh. L'hypothyroïdien, j'ai fait pas mal de bouquins aussi là-dessus, moi je le définis comme l'escargot triste. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc le lien, il est établi de façon très claire.
Alors, on a compris qu'il y avait un lien donc, entre nos intestins, ce qui se passe dans notre ventre et notre psychisme, notre état de sensibilité. On associe souvent le stress et les maux de ventre, mais est-ce qu'il y a vraiment un lien direct qui est démontré là aussi?
Oui, il y a un lien direct.
Parce qu'on dit avant un examen, j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, oui. Ça peut arriver ça.
Encore une fois, parce qu'effectivement, par ce mécanisme-là de lien, notamment neurologique, avec le nerf vague, entre le cerveau et les intestins, oui, on peut avoir, à cause d'émotions mal contrôlées, mal interprétées, mal ressenti, on peut avoir des symptômes digestifs organiques tout à fait réels, bien sûr.
Est-ce que l'hypersensible est aussi sensible au niveau du tube digestif? Est-ce que c'est des personnes qui vont avoir plus de ballonnements, de douleurs abdominales ou de diarrhée?
Alors, il semblerait effectivement que tout ça passe par ce qu'on appelle des récepteurs nociceptifs, c'est-à-dire des récepteurs qui vont ressentir la douleur et analyser la douleur. Il est probable effectivement que les hypersensibles aient en plus une quantité de récepteurs nociceptifs digestifs un peu plus importante que les autres. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites, notamment en mettant des ballonnets que l'on gonfle, etc. La perception du gonflement, la perception de la douleur n'est pas la même. Et il s'avère que chez les gens pour qui on a à la fois une perception de ballonnement et à la fois une perception de douleur, sont des hypersensibles.
Et donc tous les gens qui ont une hypersensibilité émotionnelle ont forcément une hypersensibilité viscérale, c'est obligatoire?
Non, c'est pas obligatoire. Mais disons que l'expression de l'hypersensibilité émotionnelle passe bien souvent par l'hypersensibilité digestive. Mais l'un n'est pas, comment on pourrait dire, exclusif de l'autre, bien sûr.
Et du coup, la solution serait d'éliminer les aliments riches en FODMAP. Mais qu'est-ce que c'est que ces FODMAP?
Alors, je mets une nuance dans votre propos. Oui, c'est une piste. Mais bien entendu, il est clair que l'alimentation représente un des moyens de lutter contre l'hypersensibilité. L'idée, si vous voulez, de diminuer l'alimentation riche en FODMAP, c'est de diminuer la perception digestive qui, en retour, va entraîner les perceptions émotionnelles. Donc les FODMAP, ce sont globalement, si vous voulez, d'abord ce sont des glucides qui ont tendance à fermenter un peu trop facilement au niveau de l'intestin et à partir de là, entraîner via ce système neurosensoriel des troubles émotionnels.
Docteur Nice, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons aborder un peu plus en détail le fameux régime FODMAP adapté aux hypersensibles. Nous allons voir comment est-ce qu'on met en place cette alimentation, quels en sont les bienfaits. On va vous guider vers votre assiette idéale si vos émotions vous submergent souvent. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité du jour, il est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Pierre Nice, vous êtes endocrinologue et nutritionniste à Paris. Vous êtes l'auteur du livre Le régime FODMAPS pour les hypersensibles aux éditions Le Duc, dont on parle aujourd'hui. Alors vous nous avez expliqué tout à l'heure comment savoir si on est par nature hypersensible du point de vue émotionnel. Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des périodes de la vie où finalement tout le monde, où on pourrait tous devenir peut-être de façon un peu transitoire, plus sensible? Moi, je me rappelle notamment de ma grossesse, c'est pour ça que je dis ça, mais oui.
Oui, bien sûr, il est clair effectivement que l'hypersensibilité, c'est un état qui peut subir des fluctuations qui peuvent provenir, si vous voulez, d'agressions extérieures, et notamment, il y a des mécanismes d'auto-aggravation qui sont bien connus, mais aussi des modifications chez la femme en particulier, pendant la grossesse, comme vous citiez tout à l'heure.
Il y a des troubles digestifs d'ailleurs à cette période-là.
Oui,
hein,
tout à fait, qui peuvent effectivement être majorés, entre autres par l'état gravide. Hein. Vous savez que l'état gravide, c'est une hyperostrogénie très importante qui peut, elle, modifier l'équilibre entre l'activité de la progestérone et des œstrogènes et à partir de là, déclencher tout un processus. Donc il y a des périodes comme ça, oui, où effectivement l'état d'hypersensibilité peut être exacerbé.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait profiter de cet état, de cette période pour justement essayer le régime sans FODMAP pour se dire, tiens, est-ce que ça a peut-être amélioré ma qualité de vie au quotidien et puis après je reprendrai mon alimentation?
Oui, tout à fait. Alors si vous voulez, l'idée du lien digestif avec l'hypersensibilité, on procède par étapes, si vous voulez. Alors, dans les FODMAP, le P, c'est les polyols. D'accord ? Les polyols, ce sont effectivement des glucides que vous allez retrouver essentiellement dans notre alimentation lorsque vous trouverez quelque chose mentionné sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de saccharose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de glucides. Donc, vous allez retrouver, notamment, je pense aux chewing-gums sans sucre, bonbons sans sucre, etc., tout un tas de polyols qui sont extrêmement nocifs au niveau digestif. vous allez retrouver des polyols dans beaucoup de plats cuisinés. Et donc, la première étape, si vous voulez, c'est supprimer tous les aliments, entre guillemets, transformés, industrialisés.
Ça, c'est les trois premiers jours, on démarre par ça. On arrête transformés.
Arrêter tout ça et déjà commencer à s'orienter vers une alimentation saine. La deuxième étape, ça consiste à supprimer le gluten. Pourquoi le gluten ? Parce que, en fait, le gluten, ce n'est pas un FODMAP, c'est une protéine, mais qui est associée, puisqu'elle est originaire du blé, qui est associée à d'autres oligosaccharides. Et donc, du coup, supprimer le gluten, ça supprime d'autres FODMAP. Si cette deuxième étape ne suffit pas, on supprime le lactose. Là encore, pourquoi ? C'est effectivement l'intolérance au lactose. Et ce n'est pas l'intolérance aux protéines du lait, c'est l'intolérance au lactose. Et si ça ne suffit pas à ce moment-là, on peut effectivement essayer de supprimer complètement tous les FODMAP.
Il n'y a plus rien à manger là, plus de lait, plus de...
Si.
J'ai l'impression que je vais avoir très faim avec vous, non ?
Il y a à manger, mais on en parlera tout à l'heure, si vous voulez qu'on parle de l'assiette. Non, il y a à manger, bien entendu. Simplement, ces étapes-là sont relativement brèves, donc ça permet de savoir relativement vite si oui ou non on est concerné par la problématique. Si au bout du compte, on considère qu'il y a effectivement une amélioration notable, après, et c'est ça qui est important, c'est pas une éradication définitive.
C'est pas encore un énième régime sans tout, quoi.
Non, attendez, moi je vois effectivement au cabinet des gens qui, toute leur vie, vont suivre un régime sans gluten, sans lactose.
Pour aucune raison, parfois, en plus.
Là, ça pose un sérieux problème, quand même, parce que il faut savoir quand même que l'allergie au gluten, la maladie cœliaque, c'est quand même rarissime. Donc après, vous allez avoir des intolérances, mais c'est un niveau de tolérance au-dessus duquel il y a des problèmes et au-dessous duquel il n'y en a plus. Donc s'imposer toute sa vie un régime restrictif comme ça, c'est pas raisonnable.
Et est-ce que vous proposez, par exemple, je sais pas, de prendre des compléments alimentaires ou des probiotiques ? Est-ce que c'est un intérêt chez l'hypersensible qui serait, par exemple, ballonné ?
Alors là aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que chaque probiotique va correspondre, si vous voulez, à une amélioration de certaines souches du microbiote. Et donc, il faut faire attention de ne pas se tromper par rapport à ça, bien analyser chaque cas et à partir de chaque cas, proposer des probiotiques qui, a priori, correspondent aux besoins de la personne considérée.
Parce que si on ne prend pas le bon, ça peut aggraver les choses, je crois.
Ça peut aggraver les choses. Le problème, c'est qu'il faudrait effectivement faire une analyse assez exhaustive du microbiote. Et aujourd'hui, à ma connaissance, ça ne se fait pas en pratique courante.
Pas en France encore, effectivement. Certains, pour justement les problèmes de ballonnement, troubles digestifs, ne jurent plus que par le charbon, par exemple, en ce moment. C'est très à la mode, on en voit partout sur Internet, achetez vos trucs de charbon. Ça ne suffit pas pour soulager les problèmes digestifs dont on parle, là ?
Ça peut être une aide, bien entendu. Le charbon, il va absorber les gaz. Il ne va pas absorber que les gaz. Il va absorber beaucoup d'autres substances. Donc, ça permet de masquer un petit peu les choses. Et si, en période aiguë, on va dire, de ballonnement intense, on fait une cure de charbon quelques jours, 10 jours, 15 jours, pourquoi pas ? Mais après, je pense qu'il faut vraiment se poser la question pour aller beaucoup plus loin.
Mélanie m'a demandé des conseils justement sur ces problèmes de ballonnement. Au-delà du charbon, je crois que de marcher, c'est pas mal non plus.
Oui, bien sûr.
Ah oui, mais écoutez ça, Mélanie.
Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas considérer que nous sommes des individus faits de petits morceaux non rattachés les uns aux autres. Et donc, effectivement, la sphère digestive répond bien sûr aux émotions, mais répond aussi au physique. Et donc, tout simplement, prendre l'habitude de marcher qui va contracter les abdominaux et faire effectivement en sorte que le péristaltisme digestif se fasse mieux, c'est aussi très utile.
Il y a moins de gaz quand on marche plus, quoi.
Et oui, bien sûr. Ouais. Et on peut aussi s'automasser le ventre. C'est pas inutile non plus.
Très bien. Parfait. On revient dans un instant. À tout de suite.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient très vite et on va poursuivre cette découverte du régime FODMAPS pour les hypersensibles. Et justement, on va voir quels sont les aliments à manger sans modération. Mais aussi, nous verrons pourquoi le sport et le yoga font partie intégrante de ce régime. On y revient très vite, alors restez avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 en Sans Rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Pierre Nice. Je rappelle que vous êtes endocrinologue et nutritionniste à Paris et que vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre régime, le premier capable de soigner nos émotions. Alors justement, quand on suit ce régime, votre régime, et qu'on est hypersensible, qu'est-ce qu'on met dans son assiette, par exemple, au petit déjeuner ?
Alors, il faut admettre l'idée que l'on soit intolérant à beaucoup de FODMAP. Pour rappel, il faudra effectivement essayer de déterminer lesquels sont bien tolérés de ceux qui le sont moins bien. Et on peut dire que sans trop de risques, on peut, pour le petit déjeuner, prendre un thé sans théine. Dans le bouquin, je donne la recette pour faire le thé sans théine. On peut éventuellement poursuivre avec galette de riz, pain au petit épeautre ou éventuellement pain au levain, pourquoi pas avec un petit peu de beurre, et puis une compote de fruits.
En gros, j'oublie le café au lait, le jus d'orange, ça c'est sûr.
Le café au lait, oui, ça faut absolument l'oublier. Ouais. Le jus d'orange, je rappelle, tant pis pour nos voisins américains, que la mode du jus d'orange, ça vient d'un moyen pour écouler les surplus des oranges américaines. Il ne faut pas oublier ça. Le jus d'orange, ce n'est pas un aliment qui soit
qui nous est nécessaire. Quoi,
non, ouais. Absolument pas.
Et du coup, à midi, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans son assiette?
Alors, attention, j'ai mis les gourmands, alors j'espère qu'il y a de quoi manger.
Sinon,
hein. Oui, non, mais on peut se débrouiller. Donc tout d'abord, on peut effectivement dire qu'on peut manger des protéines, bien entendu, ça c'est pas un problème, notamment orienté vers des poissons qui sont moins gras, plus digestes, etc. On peut et toujours associer de petites quantités de farineux féculents avec des légumes verts qui vont être plutôt cuits, puisqu'ainsi beaucoup mieux tolérés.
Mais pas vert foncé, attention, je ne sais pas pourquoi, vous allez nous expliquer.
Parce que justement, c'est un des moyens simples de reconnaître les aliments qui sont moins bien digérés sur le plan digestif.
Donc les blettes, c'est moins bien que, ou les épinards, c'est moins bien que les poireaux.
Alors, après, il y a plusieurs éléments qui interviennent, notamment si on parle des crucifères, des choux de Bruxelles, ou par exemple du chou-fleur, on a des techniques de cuisson. C'est vrai que
Jimmy n'aime pas ça, donc c'est pas grave.
Si on les fait cuire dans deux eaux, par exemple, c'est beaucoup mieux toléré. Donc voilà, on peut associer des légumes verts qui vont être effectivement plus digestes et bien cuits, cuits au wok, etc. On peut terminer avec un petit morceau de fromage, là aussi, en faisant en sorte que plus on va avoir un fromage qui va être, on va dire, fermenté, moins il aura de lactose et donc plus il sera digeste.
Chèvre, c'est mieux que vache,
chèvre,
hein,
pourquoi
j'imagine.
Pas, ouais. Oui, mais aussi, par exemple, si on prend des bleus, des fourmes et des choses comme ça, qui sont beaucoup mieux tolérées. Et puis terminer, pourquoi pas, avec un fruit, une banane pas trop mûre,
vous
etc.
Vous avez plus faim, Jimmy.
Oui, ça va, c'est pas mal. Mais vous avez dit, on évite les crudités, du coup, et on privilégie les légumes cuit, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire que quand c'est cru, bon bah ça passe plus facilement?
Alors, parce que quand effectivement vous cuisez l'aliment, vous allez déjà casser les fibres. Et le problème des FODMAP et des aliments qui fermentent, c'est justement la problématique des fibres non digestibles. Donc si vous les préparez, vous allez mieux les digérer, c'est une certitude.
Quelle est la place des fruits dans ce régime? Parce que vous nous avez dit, les FODMAPs, bah, c'est des glucides, des sucres. Donc il y en a qu'on peut manger, d'autres. Enfin, je veux dire, certains à privilégier, d'autres à bannir.
Oui, vous pouvez effectivement manger par exemple toutes les baies, ça pose pas trop de problèmes. Les framboises aussi, les fraises,
rouges,
etc.
Les
fruits
près,
rouges,
ouais.
Ça va à peu près.
C'est pas trop sucré, c'est ça?
Alors les fruits rouges sont peu sucrés, on est à 5% de glucides, hein, c'est très très peu. Donc ça fait partie des fruits les moins sucrés. À l'inverse et à l'autre bout de l'échelle, vous allez trouver le raisin qui, lui, va être effectivement à 20% de glucides. Donc, c'est une grosse, grosse différence.
Alors, excusez-moi, non, mais
je vous en prie.
Non, j'étais déjà sur la liste d'aliments riches en magnésium. Je ne sais pas pourquoi ça m'a intrigué. Pourquoi est-ce que c'est si important d'en prendre pendant ce régime?
Alors, ce qui est intéressant dans le magnésium, si vous voulez, et là, on revient un peu sur la technique, c'est que le magnésium intervient comme un régulateur, si vous voulez, quelque chose qui va apaiser. Et donc, le magnésium permet, avec le GABA, l'acide gamma amino butyrique, de réguler, si vous voulez, tout ce qui est hyperactif. Donc, c'est un anti-stress de premier ordre. Et donc, le magnésium, il ne faut pas aller chercher bien loin pour en trouver. Dans certaines eaux minérales en particulier, c'est très, très facile d'avoir sa quantité de magnésium.
Ou un petit carré de chocolat, j'ai le droit, du coup.
Un carré de chocolat, oui, noir, mais de très bonne qualité aussi.
Ouais. Vous avez dans votre livre un programme aussi contre le stress et pour bien dormir, parce que vous dites que les hypersensibles, ben, le manque de sommeil, c'est encore plus grave, entre guillemets, que chez les autres. Enfin, c'est vraiment une très mauvaise chose, c'est-à-dire?
Alors, le sommeil, c'est une réparation physique, c'est une réparation psychique, c'est une réparation hormonale. Et donc, si effectivement, vous améliorez la qualité du sommeil, vous allez améliorer aussi la qualité de la réparation hormonale. Un exemple, qui n'est pas directement lié à ce processus-là, mais l'hormone de croissance, par exemple, est sécrétée en première partie de nuit, à partir du moment où vous dormez de façon correcte, entre, on va dire, 11h et 1h du matin. Enfin, 23h et 1h du matin. L'hormone de croissance, elle est extrêmement importante, pas pour grandir quand on est adulte, mais par exemple pour la répartition masse-maigre, masse-grasse. Et donc, on va réguler plus facilement le poids si on dort mieux. On va aussi réguler beaucoup mieux les neurotransmetteurs quand on dort mieux. Donc, c'est important d'avoir une qualité de sommeil. Donc, à partir de là, c'est effectivement important aussi de savoir pourquoi on dort mal. Est-ce que, tout bêtement, la literie est de bonne qualité? Tout bêtement. Et malheureusement, ça arrive.
Pour finir, combien de temps il faut faire ce régime, puisqu'on est hypersensible toute la vie? Est-ce qu'il y a des moments où on pourra s'arrêter?
Oui, alors effectivement, il y a des moments où on peut s'arrêter, dans les périodes où on est un peu plus tranquille, etc. Oui, on peut réélargir un peu les choses, et c'est ça l'intérêt de ce régime, c'est-à-dire que ce n'est pas une restriction définitive, un bannissement définitif de tous ces aliments-là. Heureusement, sinon ça devient galère.
Merci beaucoup, docteur Pierre Nice, d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà fini, on aurait voulu en savoir beaucoup plus. Mais justement, pour avoir davantage d'informations, je vous rappelle son livre, donc le régime FODMAPS pour les hypersensibles, disponible aux éditions Le Duc. Merci encore, docteur.
C'est bon, toi.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, dans laquelle le docteur Jimmy Mohamed va finalement rester sur le terrain des émotions, et je dirais même des émotions fortes, puisqu'il va tout nous dire sur la crise de panique. C'est quoi? Comment ça se prend en charge? A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, notre chronique Les Bobos du quotidien, avec un éclairage sur la crise de panique. Savez-vous précisément ce que c'est? D'ailleurs, vous avez peut-être déjà été témoin d'une crise pareille. Comment la reconnaître? Comment la différencier de l'anxiété très forte qu'on peut tous ressentir un jour? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo.
Une crise d'angoisse, c'est quand on n'arrive plus à respirer, qu'on a les mains moites, des bouffées de chaleur.
Problème de respiration, tremblement, on a du mal à tenir debout.
Le cœur qui palpite vite, on se sent pas bien, on a chaud.
C'est une crise qui survient quand on a un grand coup de stress ou parfois même sans raison.
Ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées.
Je pense que tout le monde en a au moins vécu une.
On peut essayer de régulariser son souffle.
J'ai un petit truc, il faut respirer. Prendre ton inspiration à fond et souffler. Plusieurs fois, ça calme.
Peut-être écouter une musique pour éviter justement de trop y penser.
Il y a des méthodes thérapeutiques, il y a la sophrologie, il y a de l'hypnose, il y a plein de choses peut-être pour essayer d'enrayer cette problématique.
Alors Jimmy, une crise de panique, c'est quoi précisément? Est-ce que déjà c'est un accident fréquent? Je ne sais pas dans la vie. Ouais.
La crise de panique, c'est une attaque de panique. On appelle ça aussi une crise d'angoisse aiguë. C'est un épisode de peur qui va apparaître de façon soudaine et intense, très limitée dans le temps. Ça arrive souvent en quelques minutes et ça dure en général entre 20 et 30 minutes. Alors, pendant la crise, le patient va décrire une sensation de perte de contrôle et il va ressentir d'autres symptômes comme la peur de devenir fou, de mourir ou parfois même une sensation de dépersonnalisation, de ne plus savoir qui on est ou même de se trouver dans un monde irréel. Donc on comprend bien que ça va au-delà de la simple peur qu'on peut avoir quand on voit une migale ou un serpent.
D'accord, alors si un jour je suis témoin de ça, comment on la reconnaît? Parce que je crois que ça peut s'accompagner chez certaines personnes de symptômes qui peuvent vraiment faire penser à autre chose, hein, type un infarctus, parce qu'il peut y avoir des sensations, je crois, d'étouffement. Il y a de vrais symptômes physiques, hein, c'est ça, Jimmy?
Exactement, là je vous ai décrit des symptômes psychique, mais en plus de ça, alors comment le reconnaître? Les patients en font souvent de façon un peu répétée, donc ils ont l'habitude. Néanmoins, ils vont ressentir des vrais symptômes, ils vont se mettre à trembler, avoir du mal à respirer, mais ils respirent bien pour autant, des douleurs à la poitrine. Et puis, il y a le système nerveux végétatif, c'est un système nerveux particulier qui va s'activer, et le patient en face de vous, il peut être pâle ou au contraire avoir des bouffées de chaleur ou même être en sueur, donc ça peut mimer de véritables infections, et donc c'est parfois compliqué de faire la part des choses pour la personne qui est en face de vous.
Est-ce que c'est pareil que ce qu'on appelle la crise de spasmophilie ou ça n'a rien à voir?
Oui, c'est un terme un peu une vulgarisation médicale, la spasmophilie, mais ça décrit exactement la même entité de crise d'angoisse.
De panique, d'accord. La prise de drogue aussi, hein, je crois, peut conduire à ce type de crise parfois.
Oui, exactement. L'attaque de panique, elle peut être occasionnelle ou elle peut se répéter, devenir chronique. Et là, on parle de troubles de panique. Et on sait que dans l'attaque de panique, il est possible d'avoir un facteur déclenchant, notamment lié à du stress. Imaginez, vous subissez une agression, il y a un attentat.
Voilà.
Mais en plus de ça, on sait que des substances toxiques ou même le sevrage alcooliques peuvent déclencher ces crises de panique.
Alors, est-ce que c'est un truc qui peut arriver à tout le monde ou il faut quand même avoir un terrain anxieux au départ? Vous disiez, certains en font plusieurs à répétition.
Oui, il faut avoir un terrain, surtout quand c'est un trouble de panique. On sait que ça va toucher 2 à 3 fois plus les femmes que les hommes. Et puis, mine de rien, on s'est rendu compte que dans 2/3 du temps, il y avait d'autres troubles anxieux comme de l'agoraphobie, donc évidemment qu'il y a un terrain particulier.
Alors, si un jour, Jimmy, vous faites une crise de panique devant moi, qu'est-ce que je dois faire pour vous aider?
Alors c'est compliqué parce que justement il faut essayer de rassurer la personne. Ouais. Alors il y a des exercices.
L'entourage compte, on peut aider.
Mais oui, on peut aider. Vous savez, dans les films, on voit les personnes respirer dans un sac en plastique.
C'est bien ça?
Oui, c'est bien parce que quand vous êtes en attaque de panique, vous respirez très vite. Votre dioxyde de carbone.
Hyperventilation.
Exactement. Il va être très bas. Et quand le dioxyde de carbone est très bas, ça vous rend encore plus confus et plus agité. Le fait de respirer dans un sac votre dioxyde de carbone, eh bien, ça va ralentir votre angoisse et diminuer les symptômes de stress. Donc, c'est un exercice tout simple. Il en existe plein d'autres. On vous dira ça une prochaine
fois. Bon, c'est pas très grave. On n'a plus beaucoup de temps, Jimmy, mais on est d'accord. Si on fait un jour une crise de panique isolée, vaut mieux consulter pour comprendre pourquoi elle a eu lieu. Quand
vous allez en avoir. On a parlé tout à l'heure d'endocrinologie, un problème de thyroïde, un problème de diabète, un infarctus. Donc, évidemment, consultez quand c'est votre premier épisode.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces explications. Europe 1. Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question de Lucie. Allez, Jimmy, c'est vous qui la lisez cette
fois. Avec grand plaisir. Ça fait depuis mes 16 ans que je suis avec mon copain et j'en ai 27 aujourd'hui. Je n'ai connu que lui et j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Et pourtant, je suis très bien avec mon copain et on se projette vachement. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je devrais lui en parler? Alors, Catherine, c'est assez perturbant. La relation se passe bien. Elle le dit, elle semble épanouie. Pourtant, c'est la peur du vide de se dire
j'en ai connu aucun autre.
Exactement.
Quoi.
Bah c'est
ça
surtout...
peut se comprendre quand même.
Oui, mais parce que notre société imagine qu'il nous faut avoir goûté à tout pour être capable de faire un choix. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, on peut se dire, est-ce qu'à 16 ans, on sait avec qui on est bien, ou est-ce qu'on est bien avec la personne qui a 16 ans comme nous? On est bien parce que cette personne nous permet de nous émanciper de nos parents, nous permet d'anticiper une idée de vie d'adulte. On a trouvé une sorte de moitié pour pouvoir envisager des choses pour soi en dehors de ce que, qui a fait notre construction d'enfant au sein de la famille, ou chemin faisant, même si c'est pour ces raisons d'élan, eh bien chemin faisant, on peut y avoir trouvé une relation de maturité, une relation pleine d'amour, pleine de surprises et pleine de créativité. Faut-il à ce moment-là, parce que ça fait 10 ans, se dire « Ouh là là, mais j'ai pas connu un plus grand, un plus gros, un plus petit, un d'une autre culture, une façon de faire l'amour comme ça, une façon de faire l'amour comme ça, tel projet, tel autre. Donc, est-ce que j'ai fait le bon choix ?» On va pas essayer la terre entière pour décider que c'est une personne qui nous convient. Mais notre société est assez cruelle. Elle nous dit « Tu ne sais rien parce que tu n'as pas tout testé. »
Mais c'est fréquent aujourd'hui quand même, ces couples justement où on s'est connus parfois au lycée, au collège, tout jeune comme ça, et qui durent toute la vie. Ça marche vraiment? Vous en avez des cas autour de vous?
D'abord, il y a beaucoup de gens, effectivement, en commençant par ceux qui viennent me voir en disant qui ont évidemment plus du tout 16 ans ni 27 ans et qui ont été avec leur premier partenaire et qui du coup effectivement se disent qu'ils n'ont pas tout testé et ils confondent la difficulté qu'ils ont au sein de leur couple, qu'ils auraient eu même s'ils avaient eu X aventures, avec le fait que comme ils n'ont pas eu d'autres relations, ils se disent que c'est peut-être à cause de ça qu'ils reluquent ailleurs ou qu'ils fantasment sur ce que la société propose de tous les possibles. Donc je crois que c'est un petit peu compliqué. Bien sûr que j'aurais tendance à dire, est-ce très important de se mettre en couple tout de suite ou on saute à pieds joints de la cellule familiale au couple? Quelle peur y a-t-il à s'éprouver soi-même dans la solitude, dans la créativité, dans l'autonomie personnelle? Je crois que c'est surtout ça. C'est moins d'avoir eu qu'un partenaire qui pose question que de ne pas avoir expérimenté l'autonomie. Et c'est ça qui me paraît être le nerf de la guerre.
Certains disent que l'amour ne dure que 3 ans, et du coup, est-ce qu'on peut
imaginer
que...
Pour des raisons hormonales, chimiques, je crois.
Des choses, des sortes d'ocytocine. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ou 15 ans, elle soit encore plus en proie au doute, ou peut-être qu'elle va justement pas se faire une raison en disant « je suis heureuse », voilà.
Tout dépendra de ce qu'elle fait de cette relation. Si elle est dans la création encore et encore, si elle est bien, si elle a plein de projets, si tout ça alimente une vie excitante au quotidien, enfin quand je dis au quotidien, entendons-nous en tout cas, au long cours, eh bien, elle a tout lieu dans 10 ans d'être avec les hauts et les bas de tout couple, qu'elle éprouvera et qu'elle surmontera. Maintenant, si elle attend que les choses se passent, qu'elle ait rencontré plein d'hommes dans sa vie ou pas, ça sera exactement la même chose. Ce sera une sorte de tristesse parce qu'effectivement, il y aura eu de longue date quelque chose de très enfermé. En fait, c'est ça qui est toujours très délicat. J'aurais tendance à dire les voyages forment la jeunesse, donc voyageons, voyons du paysage pour pouvoir justement se faire une idée de tous les possibles. Ne restons pas enfermés dans l'univers dans lequel nous avons grandi, parce que si ça se trouve, c'est même un enfant avec lequel on s'est engagé qui est à proximité du champ familial et on est resté dans le domaine. Mais à la fois, vous voyez bien qu'il y a des générations entières qui ont fonctionné comme ça et qui l'ont fait très joliment. Tous n'ont pas été catastrophiques.
Certains ont divorcé quand même.
Et certains ont divorcé.
Mais c'est pas parce qu'on s'est connus à 16 ans qu'on a plus de risques de divorcer si on s'est connus plus tard. On est d'accord, avec plus d'expérience.
Bien sûr. Alors, encore une fois, si on était mature à 16 ans ou si on n'était pas mature, on peut être mature à 16 ans et chercher encore plus cette maturité auprès de quelqu'un qui lui aussi fait grandir cette maturité, comme on peut être totalement immature avec quelqu'un qui est complètement immature et on reste des petits enfants jusqu'au jour où on se réveille et c'est à ce moment-là qu'on divorce, justement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Je vous dis donc à demain. D'ici là, prenez soin de vous.